Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour, ici François Beauregard et vous écoutez Sans détour, édition du 7 mars 22. Aujourd'hui, on va parler d'activité physique, mais dans un sens plutôt dans le passé. On va parler de l'histoire des Jeux paralympiques avec notre chroniqueuse, Mme Christiane Campagna, qui fera également sa revue de presse. Nous aurons la compagnie de Lynn Baudet, infirmière-chercheure au Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, et M. Romain Rigal, directeur du programme et services chez Parkinson Québec. Et on va parler de ta vie, une façon importante et aussi amusante de pouvoir en apprendre un peu plus sur la vie de couple avec le Parkinson. Mais pour commencer, un peu d'actualité scientifique avec notre vulgarisateur scientifique, M. Philippe Ducharme, qui est docteur en biologie et qui va pouvoir nous démystifier quelques nouvelles qui sont en fait très importantes pour nous. Tout ça à Sans détour. Bonjour Philippe, comment allez-vous?
Bonjour François, ça va très bien, je te remercie.
Ça va bien, merci. On commence aujourd'hui, on amorce une nouvelle série ici à Sans détour. On va parler de vulgarisation scientifique, on va faire le tour des nouvelles qui, au cours du mois, devraient retenir notre attention, mais qui, parfois, c'est un peu compliqué ou peut-être on est rebuté par la complexité du sujet. Alors, on passe outre, mais ce sont souvent des choses qui sont porteuses d'espoir. Alors, ce mois-ci, qu'est-ce qu'il y a comme récolte? On va parler de glaucome et de dégénérescence maculaire.
Effectivement. Puis, ben, tiens, on va commencer avec le glaucome, puisque tu as introduit ça avec ça. Donc, on va commencer avec un petit rappel. Là, le glaucome, qu'est-ce que c'est exactement cette maladie-là? On peut donc se dire essentiellement que c'est une lésion, c'est une maladie qui est associée à une lésion du nerf optique, donc le petit câble électrique là, qui nous permet de conduire les signaux lumineux jusque dans le cerveau, là où l'information va être analysée. Glaucome est très souvent, voire probablement tout le temps, accompagné aussi d'une pression intraoculaire qui est beaucoup trop élevée. Là. C'est souvent ça qu'on va remarquer. Puis si on s'intéresse un petit peu plus en profondeur à la nature même du problème...
Pourquoi il y a une pression? Voilà.
Oui, exactement. Pourquoi il y a une pression finalement plus élevée dans l'œil? Ben, c'est une question de production et d'élimination d'un liquide qu'on appelle l'humeur aqueuse. Donc, un liquide qui se retrouve dans l'œil. En gros, là, l'humeur aqueuse est produite quelque part au niveau de sous le cristallin, ou tout près du moins. Ce liquide-là va traverser par la pupille, l'iris, puis il vient nourrir finalement l'œil, là, les cellules à ce niveau-là, puis il va être éliminé par des petits canaux. On peut donc imaginer que c'est comme si finalement on a un lavabo qui coule, un robinet qui coule, puis qui s'écoule dans le lavabo tout simplement. Le problème ici avec le glaucome, c'est qu'on a des canaux qui sont obstrués, qui sont bouchés.
Alors donc, le drainage ne se fait pas bien.
Voilà, le lavabo se remplit, ne se vide plus. Donc, la quantité de liquide augmente dans l'œil, ce qui, justement, amène une pression trop élevée à l'intérieur de l'œil. Et donc, il y a des chercheurs qui s'intéressent à cette problématique-là. Puis, ce qui m'a retenu l'attention ici, c'est une étude produite par le professeur Adriana Di Polo, de l'Université de Montréal. Donc, son équipe de recherche a identifié des mécanismes qui sont à l'origine des principales défaillances vasculaire chez les personnes qui ont le glaucome. Et pour poursuivre là-dedans, bien, ils se sont intéressés à des cellules en particulier, des cellules qu'on appelle des péricytes. Oui, péricytes, voilà un nouveau mot ajouté dans notre vocabulaire. Okay. Donc, des péricytes, ce sont des cellules qui vont, disons, en quelque sorte, enrober les capillaires, les petits vaisseaux sanguins qui permettent d'acheminer le sang, dans ce cas-ci, le sang jusqu'aux cellules de la rétine. Donc, on le sait, le sang transporte quoi? De l'oxygène, des nutriments, ce dont les cellules ont besoin pour bien se comporter, bien survivre finalement. Et les péricytes, ça fonctionne comment? Ça vient en quelque sorte contracter les vaisseaux sanguins, les petits capillaires, pour réguler la quantité de sang qui circule. Ça fonctionne un peu comme un serpent.
Un serpentin autour du tout petit tube. Là, on parle de nanotube. Alors là, c'est microscopique.
Nanotube, on va y arriver dans quelques instants. Tu touches un point qui s'en vient. Si on revenait donc sur la notion des péricytes, les chercheurs en laboratoire ont utilisé un modèle de souris, donc des souris dans lesquelles on crée une pression intraoculaire. Donc, on a une façon de procéder pour ça. Donc, ça reproduit finalement un modèle de la maladie du glaucome, puisqu'on y a... Ce qu'on remarquait avec ce modèle de souris-là, c'est que le diamètre des capillaires était vraiment plus petit. Quelque chose qui peut-être a à voir avec les péricytes. Et ces péricytes-là communiquent entre eux par des fins petits tuyaux. C'est ça, les fameux nanotubes que tu viens de nommer.
Les nanotubes font le lien entre les péricytes.
Exactement. C'est une façon pour les péricytes de communiquer entre eux et d'avoir une action concertée là, quand ils veulent agir. Parce qu'il faut se le dire, c'est quand même normal que les péricytes puissent contrôler la pression sanguine au niveau des capillaires. L'ennui, c'est que dans ce cas-ci, lorsqu'il y a une pression intraoculaire trop élevée, ces petits nanotubes-là sont également endommagés. Ça fait quoi, finalement? S'il y a moins de sang qui s'en va jusqu'aux cellules de la rétine, bien, on se retrouve dans une situation où les cellules vont mourir, puis on a une perte de vision associée à ça. Le point tournant de cette étude-là, c'est qu'ils ont été capables de montrer que le calcium, on connaît ça.
C'est peut-être un des éléments chimiques qu'on connaît le plus, surtout l'hiver.
Exactement. Voilà. Oui, exactement. Des journées comme aujourd'hui, justement, on en est pas un peu sur la route. Donc, le calcium, au niveau physiologique, a plusieurs fonctions, mais notamment le calcium va améliorer cette capacité-là des péricytes à comprimer les capillaires. Mais le problème avec le glaucome, c'est qu'il y a beaucoup trop de calcium qui va entrer dans les péricytes. Donc, on a une certaine dérégulation du fonctionnement des péricytes.
Parce que souvent, on voit ça en plomberie, là, quand il y a des dépôts calcaires, si l'eau de la ville est trop dure, bouilloire s'encrasse ou ainsi de suite. Ouais. Alors, il y a des dépôts, le calcium, finalement, s'accumule dans les tout petits tubes et de la vascularisation de l'œil et ça empêche...
Parce que si c'est, disons, le calcium vient, disons, favoriser une contraction, là, c'est vraiment l'action mécanique au niveau des cellules des péricytes. Puis, ce qui est intéressant, c'est que si on empêche cette entrée de calcium-là excessive dans les péricytes, ben, on vient justement rétablir un peu mieux le fonctionnement des cellules péricytes. Puis du flux sanguin qui s'en va jusqu'aux cellules de la rétine. La rétine qui est la couche, si tu veux, au fond de l'œil sur laquelle les rayons lumineux vont frapper.
Donc, en fait, le taux de calcium dans le système oculaire serait une clé pour essayer d'identifier des problèmes possibles. S'il y a trop de calcium, comme on vient de le voir, on peut penser aussi que s'il y a une déficience, on pourrait avoir un problème inverse. Donc, le calcium, parce qu'on d'habitude, on associe le calcium avec les os, pas avec les yeux.
Voilà une autre démonstration que le calcium a des rôles ailleurs que dans la structuration des os, on va dire.
Voilà. OK. Alors ça, cette avancée-là par l'Université de Montréal permettrait peut-être de trouver une clé pour prévenir ou corriger les problèmes liés au glaucome.
C'est une autre cible sur laquelle on pourrait agir. Puis évidemment, ça va prendre d'autres recherches pour avancer là-dessus, mais l'idée, c'est que ça nous fait une autre cible potentielle pour développer des thérapies pour tenter de freiner ou d'améliorer la condition des personnes atteintes de glaucome.
Parce que quand on parle de glaucome, on parle souvent de la nécessité de faire une détection hâtive, parce qu'au début, le glaucome, on n'a aucune sensation, on ne sait pas que notre œil est attaqué, et là aussi, il y a des avancées sur la détection.
Exactement, c'est formidable parce que justement... dernièrement, il y a une petite start-up, donc une compagnie qui a mis au point un instrument qui est en fait un casque. Un casque, comme on en voit là, les gens qui jouent à des jeux immersifs, là, des jeux vidéo où on porte des lunettes pour voir des décors en trois dimensions. Bien, dans ce cas-ci, c'est un casque qui combine évidemment de la technologie de la réalité virtuelle, mais aussi de l'intelligence artificielle. Et c'est un casque qui permet de réaliser, dans le fond, des mesures, du monitorer, donc faire un suivi régulier ou encore de diagnostiquer, comme tu dis, peut-être de manière plus facile, plus précoce, les gens qui pourraient donc présenter des symptômes liés au glaucome. Ce casque-là, essentiellement, fonctionne un peu comme un tensiomètre, donc l'appareil qui permet de mesurer la pression artérielle, là, ce qu'on porte au bras, là, l'espèce de brassard
qui se gonfle, là, puis qui resserre, qui nous...
Disons, ouais. Oui. Là où... Oui, je t'écoute. l'idée, c'est que ce casque-là va envoyer une pression d'air, donc on le porte évidemment devant les yeux, va générer une pression d'air décroissante, donc une pression élevée vers une pression plus basse. Et il y a des petites caméras dans ce casque-là qui vont filmer le comportement des yeux, mais plus précisément, va enregistrer les pulsations au niveau des petits vaisseaux sanguins qu'on a dans l'iris, et aussi au niveau du blanc de l'œil, donc la sclérotique. Et ça va générer donc des graphiques, si on peut dire, qui vont permettre de mesurer ultimement la pression intraoculaire dans les yeux.
C'est comme prendre la pression sanguine avec le brassard autour du bras, mais là, ça se fait comme pour l'œil, avec un appareil qui ressemble à un masque de plongée. Là. Il faut que ce soit hermétique, évidemment, pour que les variations de pression soient faites adéquatement. Mais ça permettrait aussi donc de détecter le glaucome de façon précoce sans être nécessairement dans le cabinet de l'ophtalmologiste.
Ben, c'est justement le point intéressant de cette innovation-là, c'est qu'on sera en mesure donc de faire un test de manière plus autonome, donc à la maison, sans nécessairement avoir un spécialiste présent à côté de nous pour faire cet examen-là. Parce que normalement, quand on va chez l'optométriste ou l'ophtalmologiste, ben, il y a des examens qui vérifient pour vérifier la pression intraoculaire. Des examens qui donc nécessitent un spécialiste, nécessitent parfois l'ajout de gouttes ophtalmologiques pour faire ça.
Exact.
Parce que si on est capable de le faire de manière autonome, et puis on peut penser que cet appareil-là pourrait être donc distribué peut-être même dans des régions où les services liés aux examens de la vue sont moins accessibles là, par les gens, par exemple. Fait que ça a quand même un potentiel intéressant pour justement essayer de détecter peut-être de manière plus précoce ou plus facilement, une autre alternative du moins pour arriver à faire de la détection de cette maladie-là.
Oh, ben c'est prometteur. Maintenant, on va passer du glaucome à la dégénérescence maculaire. Et là aussi, il y a des avancées.
Oui, tout à fait. Je vais essayer de faire ça vite, mais je vois que le temps...
Oh non! c'est précieux de ces informations-là. Merci.
OK, d'accord. Ben, écoute, la dégénérescence maculaire, grosso modo, on le voit bien, là, il y a la macula là-dedans qui est la source du problème. Macula, c'est au niveau du centre de la rétine, mais plus encore, au centre de la macula, on retrouve des cellules, des photorécepteurs qui sont des cônes. Ce qui arrive finalement, c'est que ces cônes-là vont mourir, si on peut dire ça. Ils vont être atteints et puis on perd la capacité d'avoir une bonne vision centrale. On a une diminution de la vision centrale. On perd aussi donc la capacité à bien voir les fins détails, par exemple. Quoi d'autre aussi? Ben, c'est une maladie qui, évidemment, apparaît avec un certain âge en général. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il y a des chercheurs aux États-Unis qui ont été capables de créer un implant dérivé de cellules souches. Et cet implant-là, une fois implanté au niveau de la rétine de personnes qui sont atteintes de dégénérescence maculaire, ben, ils ont présentement observé que, cet implant-là n'est pas rejeté par l'organisme.
C'est important parce que c'est tout le problème des greffes. Là. Il faut prendre une médication très lourde pour qu'un corps étranger soit accepté.
Exactement. Dans ce cas-ci, avec une légère dose d'immunosuppresseur avant et après la chirurgie, ben justement, ils ont été capables de montrer que l'implant va survit très bien, en fait, même après 2 ans suivant l'opération. Ces gens-là ont une certaine amélioration des fonctions visuelles, mais surtout aussi c'était de faire la démonstration qu'il était possible de faire une telle transplantation sans avoir recours à des immunosuppresseurs de manière agressive. Et évidemment, l'aspect intéressant de cette étude-là, c'est de faire ça à partir de cellules souches.
Oui.
Donc, des cellules souches qu'on a différenciées. Des cellules souches, c'est des cellules qui ont la capacité de
devenir autre chose, en fait.
Exactement.
Voilà.
Toutes les cellules de notre organisme, autrement dit, en laboratoire, avec des recettes particulières, on arrive à produire certains types cellulaires. Dans ce cas-ci, les cellules souches ont été utilisées afin de produire, on appelle ça des cellules pigmentaires rétiniennes. Donc,
ça semble à la rétinite pigmentaire, là, ce que vous décrivez. Oui.
Tout à fait, exactement. Donc, finalement, on a pris ces cellules-là, on les a cultivées en laboratoire, puis on les a implantées sous forme d'une fine petite membrane au niveau de la macula. Puis, cette étude-là, en ce moment, vise aussi à s'assurer que ce n'est pas nocif, là, que l'innocuité, finalement, de ce traitement-là. Mais déjà, présentement, on peut observer déjà une certaine amélioration de la vision chez ces personnes-là atteintes de dégénérescence maculaire. Donc, on est déjà en mesure d'observer déjà des effets très positifs de cette approche-là, qui va sans doute se développer. Puis pour l'instant, ce n'est pas encore possible, ce n'est pas accessible, ce n'est pas un traitement qui est accessible, mais on peut imaginer que d'ici peut-être quelques années, on verra cette autre alternative-là pour aider les gens qui souffrent de dégénérescence maculaire.
Ça, c'est une recherche qui émane de l'Université University of Southern California.
Exactement.
Si vous voulez poursuivre vos recherches, c'est le docteur Michael Imayun, H-U-M-A-Y-U-N, qui est responsable de cette recherche-là. Ben, c'est peut-être pas des choses qui sont disponibles demain matin, mais voilà, quelques vallées plus tard, quelques années plus tard, peut-être ça se rendra jusqu'à nous, puis ça va nous aider dans la guérison ou le traitement de maladies oculaires. Ben, merci beaucoup, absolument. Philippe Ducharme. Ça a été encore une fois un plaisir. Puis, on se reparle dans un mois. Parce que l'actualité scientifique n'arrête pas. Il y aura certainement d'autres sujets à aborder à ce moment-là. Merci.
Absolument. Bonne fin de journée. Bye-bye.
C'était le Swing de Paris, enregistré en décembre 1940. Swing de Paris composé par Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. C'était interprété par Django Reinhardt et le quintet du Hot Club de France. Django Reinhardt, de son vrai nom Jean Reinhardt, est né près de Charleroi, en Belgique, en 1910, suite à un incendie dans sa roulotte. Oui, parce que Django Reinhardt était un Sinti. Dans sa roulotte, il y a eu un incendie quand il était jeune et il a perdu plusieurs doigts de la main gauche, ce qui, pour un guitariste, on peut le croire, est une catastrophe. Eh bien, ne se laissant pas abattre, il a développé un style musical qui lui est propre, qui a fait époque, qui a influencé beaucoup d'autres guitaristes de jazz. Voilà. Par ailleurs, on va parler aussi d'histoire, en revenant un peu plus près de nous et des Jeux paralympiques. Et j'ai en ma compagnie Mme Christiane Campagna qui va nous faire le pourquoi et l'origine des Jeux paralympiques. Bonjour Christiane.
Bonjour François. Oui, c'est ça, je vais vous parler de celui qu'on pourrait surnommer le Pierre de Coubertin des Jeux paralympiques, un neurochirurgien britannique d'origine allemande qui s'appelait le docteur Ludwig Gutmann.
Oui, Gutmann, ça fait origine allemande, c'est sûr. Ludwig.
Oui, il est né d'une famille juive orthodoxe à Tost, une ville qui est aujourd'hui en Pologne, en 1899. Il est reçu médecin en 1924 et est rapidement reconnu là, comme un grand neurochirurgien en Allemagne. Sauf que, bon, face à la persécution des Juifs par les nazis, il quitte pour la Grande-Bretagne avec sa femme et ses enfants en 1939. Il s'installe à Oxford, comme plusieurs autres chercheurs et universitaires juifs là, qui fuyaient à l'époque la menace nazie. En 1944, le gouvernement britannique lui demande de créer un centre national pour les blessés à la moelle épinière. Ça se situe à Stoke Mandeville. Et ses collègues, bon, d'autres éminents médecins, trouvaient ça un peu bizarre de sa part là, de quitter Oxford pour se consacrer à s'occuper de patients dont on s'occupait peu à l'époque, qu'on considérait, bon,
les plus très utiles. Les maladies médulaires étaient pas vraiment soignées, là. Ils étaient... c'était pas connu, puis les gens étaient parqués, là, essentiellement comme des membres qui ne seraient plus utiles à la société.
Voilà. Mais dès le début de sa pratique, il croit aux vertus de la réhabilitation physique et psychologique par le sport pour ses patients. Alors, et dans ce sens-là, c'est vraiment pionnier. Il a mis au point une thérapie basée donc sur le sport avec du tennis de table, du billard, du basketball, du tir à l'arc. Et il a vite pu remarquer là, des progrès en termes de force, de confiance et d'estime de soi aussi. Et la plupart de ses patients pouvaient retourner chez eux, trouver un emploi, contrairement à ceux qui n'avaient pas suivi ce genre de thérapie.
On peut penser que c'était au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il devait y avoir une assez large part de ses patients qui étaient des jeunes hommes, des jeunes femmes, qui étaient quand même assez vigoureux ou dans la force de l'âge, qui avaient été blessés pendant la guerre.
Oui, tout à fait. Et c'est pourquoi là, il décide de s'engager là, pour permettre, bon, on parle au départ à des personnes paraplégiques et tétraplégiques, d'accéder au sport à tous les niveaux. Et ça, ben, ça passait par l'adaptation des pratiques et des règles. Et le 28 juillet 1948, en même temps qu'à Londres s'ouvraient les Jeux olympiques, il a décidé d'organiser une compétition de tir à l'arc pour 14 athlètes, 12 hommes et 2 femmes. Et c'est au fond ce qu'on pourrait appeler le début des Jeux paralympiques.
La première compétition paralympique ou de sport adapté, parce que ça, je suppose, c'était du tir à l'arc en fauteuil.
Oui, il les appelait les Jeux paraplégiques.
Ah, okay. Paraplégique.
Oui.
D'accord. Oh, ben, c'est sûr que ça allait évoluer, mais l'intention était bonne. Puis que ce soit le même jour que l'ouverture des Jeux olympiques à Londres, ça a dû quand même donner un peu un coup dans les médias.
Oui, mais pendant longtemps, les Jeux vont se tenir en même temps, mais ailleurs. Les Jeux de Stoke Mandeville, comme on va les appeler longtemps, ont lieu chaque année, croissent sans cesse, le nombre de compétiteurs augmente. En 1960, en même temps que les Jeux olympiques de Rome, l'événement prend le nom d'International Stoke Mandeville Games et passe sous la responsabilité de la Fédération mondiale des anciens combattants. Donc là, on peut commencer vraiment à parler de quelque chose qui ressemble vraiment aux Jeux paralympiques. En 1968, tiens, le Canada participe à ses premiers Jeux à Tel Aviv, en Israël, avec 25 athlètes. Mais encore à ce moment-là, on ne parle que de personnes qui ont un handicap moteur, en fait. On parle encore vraiment de principalement de lésions médulaires.
Et là, à ce moment-là, les Jeux paralympiques ne sont plus dans la ville haute parce qu'en 1968, les Jeux olympiques étaient à Mexico.
Oui, voilà. Donc, ils ont lieu, au lieu d'être décalés comme maintenant, ils ont lieu en même temps, mais ailleurs. Par exemple, en 76, qui est la première année où on élargit à d'autres formes de handicap, notamment des handicaps visuels et des personnes qui ont eu des amputations. En 76, les Jeux, qui ne s'appellent pas encore paralympiques, ont lieu à Toronto, alors que les Jeux olympiques ont lieu à Montréal.
Oui, ça, franchement, je ne me souviens pas d'en avoir entendu parler en 76.
Et c'est la même année où on organise les tout premiers Jeux paralympiques d'hiver à Örnsköldsvik, en Suède, avec deux sports au programme de la compétition, le ski alpin et le ski de fond. C'est en 1984 que le terme « Jeux paralympiques » est officiellement utilisé et validé par le CIO. Et c'est en 1988, pour la première fois, que les Jeux paralympiques ont lieu sur les mêmes sites que les Jeux olympiques, soit à Séoul, en Corée.
Et à ce moment-là, bien, c'est sûr qu'il y a l'utilisation des infrastructures qui sont mises en place. Mais il y a aussi un petit pas vers le fait de reconnaître que les athlètes paralympiques sont des athlètes à part entière, qu'ils ont droit à des installations de la même qualité et dans une ville haute qui est la même que celle des Jeux olympiques.
Oui, par contre, ce deux semaines après est de plus en plus remis en question.
Exact.
Maintenant, on préférait que ce soit avant. Il y a comme une montée vers les Jeux olympiques sur le plan médiatique, sur le plan de la hâte des gens. Et avoir lieu quand ça a lieu deux semaines après qu'on ait assisté à la télé à une cérémonie de clôture.
Qui est spectaculaire, qui nous amène au prochain cycle olympique. Ça fait un peu comme, ah oui, mais il y a aussi les Paralympiques la semaine prochaine.
Voilà. Alors, on a même été la flamme à la fin des Jeux, tout ça. Et je me souviens que l'ancien athlète paralympique, Benoît Huot, a dit avant, parce que... C'est sûr que dans un monde idéal, on voudrait pendant, mais avec les nombreuses catégories, c'est les lieux, en fait.
La logistique commence.
C'est la logistique qui serait difficile, mais avant, ça jouerait ce rôle. Vous savez, quand vous allez à un concert et qu'il y a une première partie, vous découvrez
souvent... Qu'on appelle la vedette américaine.
En France, c'est comme ça qu'on les appelle. Cette première partie vous permet souvent de découvrir des artistes que vous ne connaissiez pas. Mais est-ce que si la première partie, cet artiste moins connu était présenté après l'artiste principal,
ça
fonctionnerait pas? Alors peut-être qu'en les mettant avant, là, on pourrait attirer davantage l'attention.
Oui, ça ferait partie du crescendo olympique. Mais le docteur Goodman, qu'est-ce qu'il en est advenu finalement?
Ben, il a reçu de nombreuses distinctions. Il est devenu Sir Ludwig Goodman en 1966. Il est décédé en octobre 1980. Et aujourd'hui, une statue est érigée en son honneur près du stade et du National Center for Disability Sports à Stoke Mandeville, où tout a commencé.
Ah, quelle belle histoire! Voilà, encore un pionnier. Ben, je vous remercie, Mme Campagna.
Je vous en prie.
On se reparle à la fin pour notre revue de presse.
Oui, tout à fait.
Au plaisir. On se retrouve après la pause. On va parler de Parkinson.
Avec François Beauregard.
De retour, ta vie en mouvement. Il s'agit de stratégies pour mieux vivre avec la maladie de Parkinson. Des stratégies qui sont destinées évidemment aux personnes atteintes et à leurs proches aidants. Et pour en parler, nous avons en notre compagnie Mme Lise Baudet, qui est infirmière-chercheure. Lynn Baudet. Ah, bien, c'est juste. Je suis désolé, Mme Baudet. Lynn Baudet. Infirmière-chercheure au Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CRCHUM. Bonjour, Mme Baudet, comment allez-vous?
Bonjour, M. Beauregard, ça va très bien, vous?
Ça va très bien, merci. Ta vie, de quoi s'agit-il? C'est une formation, c'est un cours, comment ça se présente?
En fait, non, ce n'est pas une formation ni un cours. C'est une intervention virtuelle qui a au cœur de cette intervention-là une infirmière d'expérience et avec laquelle elle a collaboré avec des couples qui vivent ou qui ont vécu avec la maladie de Parkinson. Et en fait, à travers différentes sessions de 15 à 30 minutes chacune, cette infirmière-là et des couples d'expérience vont guider et orienter des personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson à travers différentes thématiques. Donc, c'est vraiment un parcours virtuel et il y a des interactions entre l'infirmière et les utilisateurs de la plateforme.
D'accord. Et c'est donc, c'est quelque chose qu'on peut faire à partir de chez soi.
Oui.
C'est un des bons côtés, je dirais, de la pandémie. Ça nous a appris à nous débrouiller un peu plus avec l'ordinateur et à s'habituer à communiquer de cette manière-là. Et il s'agit donc de capsules qui chacune abordent un thème, parce que quand il y a un diagnostic de Parkinson dans la famille, dans le couple, c'est inquiétant, on ne sait pas trop vers quoi on s'aventure et ça va servir justement à peut-être démystifier puis rassurer les gens.
Exactement. Puis ça vise aussi à les soutenir. Avec la maladie de Parkinson, il y a différentes situations concrètes dans leur vie qu'elles rencontrent et souvent ça pose des fois des difficultés parce que c'est nouveau ou parce que c'est difficile. Donc, à travers des situations concrètes, ce que l'infirmière et les couples font, c'est donner des trucs et astuces. Des situations pour faire face à des situations qu'ils peuvent rencontrer au quotidien, là, tout au long de la maladie, du diagnostic là, vers des phases qui sont plus avancées.
Et quels sont les thèmes qui sont abordés? De quelle façon est-ce que c'est très quotidien? C'est des choses de tous les jours? Comment est-ce que ça se déroule, les capsules?
Ben, en fait, les capsules ont différentes thématiques qui sont basées sur les besoins des personnes et des proches aidants. Alors, par exemple, il y a des capsules « Vivre à deux avec la maladie de Parkinson », savoir qu'on n'est pas seul, puis démystifier la maladie puis ses répercussions. Il y a une thématique qui porte sur comment on peut préserver notre santé puis garder une meilleure qualité de vie. Quelles sont les ressources, comment on peut s'outiller, comment on peut faire des demandes d'aide, s'ajuster à des changements de rôle, la communication. Donc, toutes les sphères de la vie quotidienne qui peuvent être touchées, il y a des thématiques particulières qui sont abordées.
Parce que vous parlez du changement dans les rôles à l'intérieur du couple, on peut comprendre que les gestes quotidiens qui étaient dévolus à un des deux membres, au conjoint, la conjointe ou du couple, ben ça commence à devenir impraticable ou impossible pour cette personne-là qui est atteinte de Parkinson de poser ces gestes-là quotidiens. Alors, il doit y avoir une substitution. Qu'est-ce que je peux encore faire et qu'est-ce que tu dois faire pour m'aider parce que je ne suis plus capable de le faire? Ça se négocie,
Exactement. Puis aussi, on voit comment ça arrive pas du jour au lendemain, ces éléments-là. Et ce qu'on montre aussi également à l'intérieur de ces capsules-là, c'est que bien que les rôles se transforment, les personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson peuvent continuer à exercer aussi certains rôles quand on fait des adaptations. Et puis, bien sûr, comment aussi d'autres personnes dans notre entourage peuvent être mises à contribution pour combler ces rôles-là.
Parce qu'il y a une certaine forme d'accablement quand on a le diagnostic. On se dit qu'on va devenir rapidement inutile ou qu'on va être un poids pour l'autre ou pour la famille. Et parfois, il y a quand même une période de temps pendant laquelle on peut faire un tas de choses. Il s'agit simplement de s'y prendre de la bonne façon puis de voir venir.
Exactement. Et puis, vous savez, la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui évolue sur plusieurs années, voire même plusieurs décennies. Donc, c'est pas des changements qui s'opèrent généralement là, du jour au lendemain. Comme vous dites, on peut voir venir les choses, mais aussi quand on a des modèles de rôle puis qu'on entend parler des gens qui ont fait des changements dans leur quotidien puis qui ont continué à vivre une vie active, qui sont restés engagés dans leur famille ou dans leur communauté, bien, ça peut devenir inspirant puis de voir que il y a des choses qui peuvent être faites pour continuer à avoir une vie active.
Et donc, ces capsules-là, on peut y avoir accès par le site de Parkinson Québec?
Exactement. Exactement. En fait, via le site web de Parkinson Québec, si vous allez dans le moteur de recherche et demandez « Ta vie en mouvement », les gens peuvent y accéder à toute heure du jour, de la nuit. C'est la beauté de la chose d'avoir une plateforme comme celle-là. Et depuis le lancement, bien sûr, plusieurs personnes, couples, familles se sont branchées sur la plateforme et elle est accessible aussi. On voit qu'il y a des gens un peu partout dans le monde, là, dans la francophonie, qui se branchent à la plateforme.
Alors, il y a un rayonnement qui est au-delà du territoire de Parkinson Québec, mais ça, c'est très bien parce que c'est universel, les dynamiques de couple et puis les besoins rencontrés par les personnes. Les personnes qui participent à la création qui ont participé à la création de ces capsules-là, comment est-ce que il y a à la fois l'infirmière, mais aussi des couples qui ont un vécu avec le Parkinson. Comment est-ce que vous les avez trouvés? Comment ça s'est fait, ce mariage-là?
Bien, en fait, j'œuvre dans le domaine depuis plusieurs années. Donc, via des personnes avec lesquelles on collabore, mais aussi en faisant un appel à tous, des gens qui souhaitaient s'investir dans la création d'une telle plateforme, on a recruté des couples, différents couples avec différents vécus aussi, différentes expériences de vie et qui étaient aussi à différents stades de la maladie pour avoir vraiment un éventail là, varié. Et leur témoignage, leur expérience sont intégrés à travers des animations. Et puis, on peut les voir évoluer. C'est intéressant comme ça parce qu'ils peuvent vraiment apporter, les bons coups qu'ils ont développés au fil des ans.
Oui, parce que ils ont passé au travail, ils ont déjà parcouru ce chemin-là, puis ils ont fait... on profite un peu de tout ce qu'ils ont, elles ont appris pendant ces années-là à gérer un diagnostic de Parkinson dans la famille, dans le couple. Et vous avez dit tout à l'heure en entrée de jeu qu'il y avait une certaine interaction entre les gens qui écoutent ou regardent les capsules et votre équipe. Donc, il est possible d'avoir... De poser des questions, comment est-ce que ça fonctionne?
Bien, en fait, c'est que l'infirmière et les couples à travers la plateforme proposent des stratégies, donnent des informations, etc. Mais chacun des tandems sont invités après chacune des thématiques à mettre en application, à se choisir des stratégies. Il y a des dizaines de trucs et astuces qui sont proposés et à la fin de chacune des sessions, les gens sont invités à mettre en application certains des trucs qu'ils ont vus. Quand ils vont vers la session subséquente, l'infirmière pose des questions et selon ce que les couples vont répondre à l'écran, taper à l'écran, il va y avoir une interaction et l'infirmière va continuer à donner des encouragements ou à donner d'autres trucs selon la réponse que les couples vont avoir enregistrée à l'écran.
C'est comme une présence virtuelle. Alors, c'est pour ça que,
exactement,
d'une part, on peut écouter les capsules ou regarder les capsules à toute heure du jour ou n'importe quel jour de la semaine, mais en même temps, malgré cette liberté, il y a tout de même une forme d'interaction qui permet de mesurer le progrès que l'on fait chez soi.
Exactement.
Même si l'infirmière et le couple dont il était question dans la capsule sont passés à d'autres choses, c'est pas grave, il y a encore des possibilités d'interaction parce que avant de passer d'une capsule à l'autre, il faut quand même s'assurer qu'on a appris quelque chose puis qu'on les a on maîtrise un peu les outils dont on vient. Qu'on vient de recevoir en cadeau. Et est-ce qu'à la fin, il y a comme un suivi qui peut être fait ou comment est-ce que ça fonctionne rendu à la fin du cycle?
À la fin du cycle, en fait, il y a un bilan qui est fait où on revoit les éléments clés et les couples peuvent, faire un bilan. Bien sûr, cette intervention virtuelle-là est complémentaire aux soins et aux services qui existent déjà dans, par exemple, avec leur médecin de famille ou avec les neurologues qui les suivent. Donc, c'est vraiment, si vous voulez, un outil complémentaire. Donc, ils peuvent ensuite en discuter avec leurs professionnels de la santé, que ce soit aussi les gens dans les CLSC ou dans d'autres organismes. Et puis, c'est vraiment pour leur donner un plus. C'est souvent des stratégies que parfois les professionnels de la santé n'ont pas le temps d'aller autant en profondeur, mais là, ils ont la chance là, de bénéficier de cette plateforme-là et ils peuvent bien sûr en discuter ensuite avec leurs professionnels de la santé.
Et c'est rassurant de voir à l'écran des gens qui ont vécu la même chose que nous, qui ont passé au travers des mêmes craintes, des mêmes incertitudes face à l'inconnu, parce que le mot fait peur et on se demande un peu qu'est-ce que l'avenir va nous réserver. Est-ce que vous avez eu du feedback? Est-ce que des gens communiquaient avec vous ou avec Parkinson Québec pour parce que ça fait pas très longtemps que la plateforme est en onde, si je peux dire, ou est disponible?
C'est ça. Elle a été lancée à l'automne dernier. On a de bons commentaires. En tout cas, on voit aussi que les gens, parmi les commentaires qu'on a reçus, c'est vraiment, il y a des gens qui nous disent, on aurait aimé ça, avoir ça dès le début du diagnostic parce que ça nous aurait aidé à démystifier bien des choses. D'autres couples qui disent, moi, je l'ai partagé avec plein de monde dans mon entourage ou dans mon groupe d'entraide. Donc, on a des commentaires positifs à cet effet-là. Et la plateforme va être traduite en anglais. Elle va devenir aussi disponible pour notre communauté anglophone au Québec. Et puis, donc, ça démontre un certain intérêt là, à ce niveau-là.
C'est magnifique. Et puis, s'il y a déjà un rayonnement dans la francophonie hors Québec, vous pourrez tout à fait en avoir un aussi dans le reste du monde par le biais d'une traduction, d'une adaptation en anglais, c'est sûr, et parce qu'il y a un côté universel et humain à la maladie, puisque ça impose aussi aux gens, puis dans la dynamique de couple. Madame Lynn Baudet, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Encore une fois, c'est simplement en allant sur le site Parkinson Québec?
Bien sûr. Et puis de regarder dans la section service et où vous tapez ta vie en mouvement, T-A-V-I-E en mouvement, et vous allez arriver là, sur la plateforme pour pouvoir s'inscrire.
C'est super. Je vous remercie beaucoup. Merci, bonne fin de journée.
Ça me fait plaisir. Au revoir.
Fais pas le camp, passe-moi tes vibrations. Moi j'ai pas vu passer l'avion. C'était comme un tout gros champignon rempli tout plein de boutons. Tout petit, la planète. Tout petit, la planète. La planète. Y a des types qui sont sortis de ça. Ils m'ont dit des trucs que je comprends pas. Tout petit, la planète. Tout
tout petit, la planète. La planète. Il y a quelque chose qui se passe dans ma tête. Il faudrait pas que ça s'arrête.
Alors, comme vous l'avez certainement deviné, la chanson s'appelle « Tout petit, la planète ». Vous aurez peut-être reconnu une chanson qui était beaucoup plus pop et électrique dans les années 70, et tout ça interprété par Roger-Marie-François Jouret, dit « Plastique Bertrand ». Eh oui, il s'agit de Plastique Bertrand, c'est la même personne, c'est le même chanteur, mais une mouture qui date du début de la pandémie en mars 2020, « Tout petit, la planète ». Et quand on pense à M. Plastique Bertrand, qui est né en Belgique, ben ça fait un lien parce que tout à l'heure, Django Reinhardt, lui aussi, était né en Belgique. Alors voilà, deux musiciens belges. Mais tout petit la planète, pour revenir à notre propos, Mme Christiane Campagna, vous êtes spécialiste pour rapetisser la planète.
Oui, virtuellement, mais quand même, on commence aujourd'hui par un tour du côté de Montpellier, en France. L'article de France Info, le livre audio, tendance culturelle en plein essor, a désormais son salon international.
Le salon du livre audio.
Voilà, qui a lieu de manière virtuelle finalement, qui s'appelle Audio Live.
Oui.
Mais les Français le prononcent peut-être Audio Live.
Audio Live.
Et pour eux, ça fait plus un jeu de mots avec livre. C'est fort possible.
Ah, d'accord. Bon,
ben. Donc, une vingtaine d'experts et d'expertes se sont rassemblés le 28 janvier dernier à Montpellier pour discuter de livre audio. C'était un webinaire organisé en partenariat avec la filière langue d'Ossienne de la Fédération des aveugles de France. Le projet AudioLive est né à Montpellier dans notre structure associative qui a 95 ans d'existence quand même.
Ouais.
C'était donc la première édition, un salon international qui regroupe des structures mondiales autour du livre audio. C'est ce que raconte Thierry Jamme, président de la FAF. Et l'opération est également soutenue par la région Occitanie et par l'UNESCO. Le livre audio est une alternative de lecture qui a d'abord été destiné aux personnes qui avaient une déficience visuelle. Or, depuis quelques années, on voit un boom dans le secteur. Depuis 2021, la croissance a été de 35 %.
Oh, c'est énorme! 35 %!
Les grosses entreprises de vente à l'international se sont emparées du phénomène et du créneau pour le plus grand plaisir des personnes malvoyantes, parce qu'à partir du moment où le livre audio devient grand public, ben c'est l'éventail de livres disponibles qui s'élargit, même s'il ne s'agit pas toujours nécessairement de formats adaptés. C'est des livres qu'on lit avec avec les oreilles, mais avec nos appareils réguliers, non pas un lecteur Victor, là, par exemple. Ce que dit M. Jamme, c'est une intégration à l'envers.
Ben, ça me fait penser, si je peux me permettre, à ce que vous appeliez la semaine dernière le « curbside effect ».
Tout à fait. Hein?
La tache d'huile qui part d'un besoin spécifique et qui devient finalement une adoption universelle de quelque chose qui fait l'affaire de tout le monde.
Exactement. Alors aujourd'hui, ce ne sont plus seulement les personnes qui ont un handicap visuel, mais ce sont les personnes dans les transports en commun ou en voiture, les personnes qui ont peut-être un travail un peu plus répétitif. On peut lire en faisant le ménage à la maison, en faisant la vaisselle. Alors, on nous parle des comédiens et comédiennes qui interprètent les histoires. Il y a Cécile Jalowski-Perra qui confirme que c'est un challenge de transformation artistique. Quand on se plonge dans un livre, on a une petite voix intérieure, un imaginaire qui chantonne. Et dans le livre audio, ben, il faut essayer de reproduire cette musique. Elle dit que elle, sa façon de faire, c'est qu'elle s'imagine qu'elle raconte l'histoire à une personne en particulier. Et c'est sa façon...
De mettre de la chaleur.
Exactement. Et Christian Hugonnet, qui est fondateur de la Semaine du son de l'UNESCO, explique qu'en effet, là, le sonore est un élément de création à part entière, qu'il faut penser les voix comme un orchestre.
Ah oui,
il y a du casting. Je pense que depuis qu'il y a de livres plus commerciaux aussi, on y met peut-être un plus grand soin aussi, ben, par exemple.
Les livres audio grand public produits en France, souvent, il y a plusieurs lecteurs, lectrices.
Oui.
Il y a même aussi du bruitage, des fois. C'est assez remarquable. Les livres audio grand public produits dans le monde anglophone, on peut y retrouver souvent des lecteurs ou des lectrices qui ont la capacité de changer leur voix d'un personnage à l'autre. Là, c'est incroyable. On a une peine à croire qu'il s'agit de la même personne qui lit le même texte. C'est frappant. Mais tout ça part d'un besoin qui était le nôtre.
Évidemment, le projet initial, c'était de faire un événement sur 2 jours avec des conférences, des festivités. On a fait un webinaire à cause de la crise sanitaire, mais le rendez-vous, dit-on, est déjà pris pour 2023.
Magnifique.
Maintenant, on s'en va à Hollywood. La semaine dernière, on remettait les Screen Actors Guild Awards, qu'on appelle couramment les SAG Awards. Ce sont des prix remis à des acteurs entre acteurs. Là, c'est vraiment la guilde des acteurs à Hollywood.
L'union des artistes.
Qui vote, exactement. Et il y avait des gros joueurs. Et finalement, du côté de l'interprète masculin, c'est Troy Koster, la star du film Coda, dont je vous ai souvent parlé, qui a remporté la victoire. Et c'était le premier homme... En fait, c'était la première personne sourde à recevoir le prix. Parce qu'à l'époque où sa collègue Marley Martlin avait remporté un Oscar en 1989, il n'y avait pas encore de SAG Awards.
Mais souvent, le Screen Actor Guild Awards est un peu le précurseur des Oscars qui vont être remis un peu plus tard. Hein. Souvent, il y a comme une anticipation que les mêmes personnes ou les mêmes films, les mêmes réalisateurs peuvent gagner à nouveau.
Bien, c'est souvent... tous ces acteurs-là font aussi partie de l'Académie, donc ils votent aussi... pour les Oscars. Il est à noter... Bon, là, lui a fait un discours de remerciement où il remontait dans les débuts de sa carrière, où c'était économiquement difficile, tout ça. Il a ensuite remercié là, Apple TV, qui a repris le film qu'il a distribué. Et ça a été vraiment un grand triomphe parce que le film a aussi remporté le prix le plus convoité de ce gala, qui est le prix pour l'ensemble. Le cast, là, la distribution au complet, a remporté le prix d'ensemble des SAG Awards de cette année. Et à ce moment-là, c'est Marley Matlin qui a pris les devants là, pour les remerciements. Elle a dit que ça valide le fait que les acteurs sourds peuvent travailler comme n'importe qui d'autre. Et ils attendent avec impatience plus d'opportunités pour les acteurs sourds et pour une place pour la culture sourde. Monsieur Koster lui a dit « J'en ai marre que les personnes sourdes soient représentées comme des victimes. » Il parle des films souvent où un entendant est là pour aider les personnes sourdes. On voit ça aussi beaucoup avec la communauté noire aux États-Unis. Il y a eu longtemps des films où on montrait cette personne blanche qui agissait comme un sauveur.
Il n'y avait pas un film « Jungle Classroom », quelque chose comme ça là, qui me revient début des années 60. Là, c'est un professeur blanc dans une école secondaire, dans un milieu racisé, dans un ghetto, quelque chose comme ça. Là.
C'est souvent...
Blackboard Jungle,
oui, il y a le The Late Night avec Seth Meyers qui avait fait une parodie de ces films-là, qui était vraiment, vraiment très drôle. C'est toujours, finalement, on est censé parler de la réalité noire, mais il y a toujours, la vedette principale du film est toujours blanche.
Ouais, ben
mais
c'est un petit pas
ça.
Dans un processus. On peut presque voir une répétition d'un processus d'intégration et d'inclusion de d'autres groupes à l'intérieur de la société.
C'est ça. Et monsieur Troy, là, il rappelait que son personnage, ben, c'est un homme de la classe ouvrière qui fait de son mieux pour survivre son entreprise. Et Mais oui, il y a aussi l'enjeu de la surdité dans le film, mais ce n'est pas le seul.
Exact. En parlant de ça, si je peux me permettre de faire un lien sur un autre de vos sujets aujourd'hui, le Conseil des arts et des lettres du Québec.
Oui, a fait un sondage. J'ai vu passer ça sur les médias sociaux. Je l'avais mis la semaine dernière, lundi dernier, sur la page Facebook de Canal M, si vous voulez le lien pour aller le remplir. Alors, c'est un sondage pour les artistes professionnels sourds ou en situation ou handicapés, engagés depuis plusieurs années à améliorer l'accessibilité de ces bourses et subventions aux personnes sourdes ou handicapées admissibles à ces programmes et aux organismes œuvrant avec ces personnes. Le Conseil des arts et des lettres du Québec souhaite obtenir une rétroaction constructive sur les ressources et services qu'il a mis en place à cet effet. Vous avez jusqu'au 16 mars pour remplir ce sondage qui prend environ 10 minutes. Si vous avez besoin d'un média adapté pour le remplir, vous pouvez écrire à info@calq.gouv.qc.ca. Et comme je vous dis, j'avais mis le lien sur la page Facebook de Canal M la semaine dernière.
Bravo.
Et un petit voyage peut-être pour aller entendre les oiseaux.
Oui, on a besoin de les entendre, les oiseaux, dans des journées comme aujourd'hui.
En Colombie, on a créé un chemin sonore pour voir les oiseaux avec les oreilles. C'est Juan Gabriel Soto qui est aveugle, qui raconte son expérience avec 6 autres personnes aveugles. Ils se tiennent à une corde et ils marchent le long d'un sentier d'observation de 400 mètres dans la campagne proche de la ville de Cali. Et un guide audio leur apprend à reconnaître les sons d'oiseaux qu'ils entendent en chemin. Alors, il dit, c'est une façon de voir les oiseaux avec nos oreilles, de les sentir. On apprend petit à petit parce qu'il y a vraiment beaucoup d'espèces, beaucoup de sons différents.
La Colombie a une faune particulièrement riche en volatiles.
Oui, et ce qu'ils disent, ce qui est intéressant, c'est que c'est un trajet qu'on peut faire plus d'une fois parce qu'on en apprend. On ne peut pas tout retenir la première fois, alors on en apprend à chaque fois.
On apprend des choses à chaque fois que vous venez nous voir, Mme Campagna. Merci encore. À titre d'historienne et recherchiste, autant le passé que l'avenir, Nicolas Wartman à la technique, François Beauregard qui vous dit à la semaine prochaine.